Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et ce lundi, on commencera avec la Ligue 1. On parlera du management de Luis Enrique sur le cas Kylian Mbappé, mais surtout du Stade brestois, surprenant dauphin qui pourrait bien garder sa place. On parlera de tout ça avec Elton Mokolo. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour parler du sacre de Liverpool, mais également du projet de Manchester United toujours plus flou. Il nous en dira plus sur l'avenir des Red Devils. On ira ensuite en Italie retrouver Guillaume Maillard-Pacini pour nous parler du coach dont la côte ne fait que monter, Thiago Motta. Où terminera-t-il? Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Napoli, tout le monde lui fait les yeux doux après cette folle saison qui mène pour l'instant Bologne à la 4e place de Serie A. Guillaume Maillard-Pacini nous expliquera en détail l'avenir du soyeux milieu de terrain devenu brillant entraîneur. Et enfin, on terminera avec l'Allemagne et la Bundesliga. La fronde des supporters allemands a eu raison des ambitions de CVC en Allemagne. On verra tout ça avec David Lortolari dans un sujet et dans un débat de société qui finalement nous expose à l'actualité en Ligue 1. Et vous verrez qu'en Allemagne, on a décidé de faire les choses autrement. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver l'intégralité de l'émission. En bonus, vous avez également le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. On démarre donc avec notre chère Ligue 1. On retrouve Elton Mokolo qui a encore suivi un week-end animé en Ligue 1. Ça fait plaisir, ça fait plusieurs semaines que quand même il se passe plus de choses qu'en début de saison sur les week-ends de Ligue 1. On va commencer peut-être par la fin et par ce réveil de l'Olympique de Marseille qui vient d'enchaîner deux victoires de rang, une en Ligue Europa et une en Liga. C'est incroyable.
Qui l'eût cru qu'en dimanche dernier, après une défaite contre Brest en supériorité numérique, que l'Olympique de Marseille allait enregistrer deux victoires de suite avec un nouvel entraîneur, ouais. Jean-Louis Gasset, avec une victoire avec la manière, avec quatre buts marqués. Donc c'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions possibles depuis une semaine du côté de l'Olympique de Marseille. On avait vraiment le sentiment qu'après Brest, la saison pouvait se terminer jeudi soir. Ouais. Et là, il y a un sursaut d'orgueil du côté de l'Olympique de Marseille qui fait qu'aujourd'hui, la saison est encore vivante et qu'il y a des belles perspectives. Mais encore une fois, l'Olympique de Marseille reste une équipe valaisante. Parce qu'on sait très bien que du côté de Marseille, on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire on a la pire équipe, mais deux victoires de suite. Voilà, on pense à la Ligue des Champions, on pense à la troisième place. On n'est qu'à 8 points de Monaco. Moi, je dis attention.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des joueurs qui ont été remobilisés. Je pense à un Ismaïl Assar qui n'avait plus trop sa place sous Gattuso, un Ndiaye qui signe peut-être son meilleur match avec l'OM hier, Aubameyang qui met un doublé. Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment où les recrues de l'Olympique de Marseille vont devoir se montrer un peu plus qu'en ce début de saison?
Ça fera plaisir à Pablo Longoria qui a œuvré pour le mercato estival conséquent l'été dernier. Mais surtout pour moi, Cyril, il y a quelque chose de très important. À savoir que Gasset a mis fin à une hypocrisie sur la nature de cette équipe. L'Olympique de Marseille est une équipe résolument axiale. Et donc, par rapport à ça, on a vu avec le système, le 3-5-2 qui a été réintroduit, elle fait la part belle à des joueurs axiaux qui sont de plus en plus performants. Bon, Aubameyang, on connaissait déjà, il monte en puissance en Ligue 1, et je précise en Ligue 1 parce qu'en Ligue Europa, il est quand même le meilleur buteur. Mais encore hier soir, on voit un joueur comme Illiman Ndiaye, entre le Illiman Ndiaye qui était collé sur la ligne sous Gattuso et le Illiman Ndiaye qui retrouve un poste qui est familier par rapport à ce qu'il connaissait du côté de Sheffield, la différence est quand même saisissante. Alors oui, encore une fois, il n'est question que d'un match. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, dans un contexte compliqué, c'est quand même mieux d'avoir des joueurs qui ont déjà leur repère.
Il y a un joueur qui n'a pas beaucoup de repères sur le banc de touche et qui pourtant y goûte plus que de raison ces derniers jours, c'est Kylian Mbappé. Et on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain, Elton. Le PSG qui a été tenu en échec à domicile face à Rennes grâce à un pénalty généreusement accordé et transformé à Gonçalo Ramos. Mais ce qui fait parler...
On dirait un pénalty rigoureux.
Ouais, rigoureux, très bien, ça me va comme expression. Mais ce qui fait parler, c'est évidemment la sortie de Kylian Mbappé à la 65e minute. Non pas que ce soit un scandale, simplement c'est une nouveauté dans le management de Luis Enrique qui jusqu'à présent avait plutôt ménagé Kylian Mbappé dans son temps de jeu, pas forcément face au micro parce qu'on se souvient d'autres sorties médiatiques, mais qui là a pris la décision de le faire sortir. En conférence de presse, il l'a très bien expliqué, avant ou après, tôt ou tard, nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Ma question, est-ce que le management de Luis Enrique peut nuire au Paris Saint-Germain?
Ah, j'attendais pas cette question. Est-ce que ça peut nuire du côté du PSG? Non, je ne pense pas, parce que je pense que les deux parties, que ce soit Luis Enrique et surtout Kylian Mbappé, sont suffisamment intelligentes, parce qu'il faut replacer le contexte. Le PSG a quand même une large avance
bien sûr
au niveau du championnat. Il y a une échéance très importante. Il y a même des échéances très importantes avec, dans un premier temps, le huitième de finale retour contre la Real Sociedad, même si tu l'as emporté 2-0, il faut quand même bien terminer du côté de la Real Arena. Et tu as un quart de finale contre l'OGC Nice. Donc oui, pour moi, c'était circonstanciel dans la mesure où Kylian Mbappé n'était pas bon sur ce match. Et donc, Luis Enrique a voulu faire de la rotation. Bon, Dembélé est également sorti. Dembélé a deux mandats à sortir. Ce n'est pas le même cas précis, mais c'est vrai que Kylian Mbappé polarise beaucoup plus d'attention. Et donc, c'est vrai que moi, je pensais que c'était un changement circonstanciel, à savoir qu'Kylian Mbappé n'est pas bon. Et le fait d'avoir cette déclaration de Luis Enrique est quand même très intéressant, parce qu'aujourd'hui, Cyril, on peut le dire, Kylian Mbappé est déboulé de son piédestal.
Ouais.
C'est-à-dire que Kylian Mbappé est un joueur un peu plus ordinaire de par sa situation contractuelle, à savoir que quand on parle de Luis Enrique, il y a une vision moyen et long terme, parce qu'on sait très bien que Kylian Mbappé ne devrait pas être parisien la saison prochaine, puisqu'il n'a toujours pas annoncé officiellement.
Mais rassure-nous, c'est impossible de voir Luis Enrique faire le même choix en huitième de finale retour de Ligue des Champions ou dans des matchs qui comptent cette saison. C'est uniquement lié à la Ligue 1 et à la réduction des risques plutôt que des choix tactiques qui pourraient devenir réguliers de sa part.
Et c'est bien pour ça que j'ai parlé de choix circonstanciels, ouais. Parce qu'encore une fois, il était question d'un match de Ligue 1 où tu as quand même une avance. Je ne vois pas Kylian Mbappé sortir à 2-0 dans le pire des cas en faveur de la Real Sociedad. Je pense que Kylian Mbappé, si le PSG se dirige en prolongation, eh ben il jouera 620 minutes.
Ouais.
Et s'il y a séance de tir au but, Kylian Mbappé sera le premier tireur parisien, sauf blessure ou carton rouge.
Très bien, pour cet épiphénomène parisien, il y a un vrai phénomène en Ligue 1 cette saison, c'est le Stade Brestois. Toujours solide dauphin finalement du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé de Monaco, on a beaucoup parlé de Lille. Et puis il y a cette équipe brestoise qui ne faiblit pas. Une victoire incroyable contre Strasbourg matérialisée par ce triplé de Madi Camara. Voilà, si on nous avait dit ça il y a quelques temps, je ne suis pas sûr que les gens l'auraient cru, mais Brest est deuxième et Brest avance sereinement sur cette fin de saison. Est-ce que Brest mérite, selon toi, de terminer dans le top 4 cette saison?
Alors moi, Cyril, moi je suis attaché au mérite sportif. Et là, on est quand même sur une vingtaine de journées de championnat. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin. Moi, ce que je vois quand on parle de Brest, c'est qu'il y a une croissance à travers ce championnat. Il faut savoir que Brest, à la trêve, n'était pas sur le podium.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'équipe qui est en sur-régime. Enfin, en sur-régime. Oui, cette équipe factuellement, elle est en sur-régime parce que l'année dernière,
ouais.
À la même époque, elle se battait pour le maintien. Eric Roy n'était pas encore arrivé, ça faut quand même le préciser, il arrive un petit peu plus tard. Mais donc oui, elle est en sur-régime, mais en fait, par rapport à son championnat, je dis bien par rapport à son championnat, si on dépassionne, si on oublie le fait que Brest jouait le maintien de la saison dernière, non, pour moi, cette équipe n'est pas en sur-régime parce que la moyenne de points n'est pas non plus extraordinaire. On parle d'une moyenne de points en dessous de 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Brest a su profiter d'éléments circonstanciels avec notamment Nice et Monaco qui font une deuxième partie de saison qui n'est vraiment pas bonne. Bon, même si Monaco l'a emporté sur la pelouse de Lens. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Et aujourd'hui, dans une Ligue 1 qui est homogène, où il y a 34 journées, ce ne serait pas déconnant pour moi de voir Brest terminer à 4e place. Moi, je ne vois pas Brest terminer à 4e place parce que j'ai dans l'idée que quand on va arriver sur le sprint final, si tu veux, je vais utiliser une métaphore. Là, c'est un marathon. Quand Brest va arriver dans le stade, je ne suis pas sûr qu'il puisse terminer sur le podium. Je ne suis pas sûr qu'il puisse terminer à la quatrième place. Par contre, oui, c'est une équipe qui n'a pas volé sa place parce que, encore une fois, l'équipe a remporté des matchs très importants, a fait forte opposition contre le PSG au Parc des Princes. Et surtout, c'est une équipe qui avance avec cette forme d'euphorie. Brest n'est pas impacté par son classement comme pourrait l'être l'Olympique de Marseille, par
Ouais,
exemple.
bien sûr. On a lu Grégory Lorenzi dans les colonnes de l'équipe qui nous dit que c'est difficile d'affirmer qu'ils seront encore là en fin de saison. Il reste 11 matchs, donc la prudence est de mise, évidemment. Il n'empêche, si on fait du football fiction et si on se projette à la fin de ce championnat, si Brest est dans les 4 équipes qualifiées en Ligue des Champions, est-ce que ce serait dérangeant pour le foot français, pour ses ambitions européennes?
Ben oui, ce serait. Enfin, Brest mériterait
Ouais.
d'aller en Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux dire par là, ce serait une claque pour les locomotives du football français. Parce que à un moment donné, quand on avance l'importance derrière le PSG d'avoir des locomotives qui soient en adéquation avec leur statut, avec leur budget, avec leur renommée, avoir plusieurs équipes qui terminent derrière Brest, pour moi, ce serait une claque pour le football français. Parce que 2 années de suite où tu vois Lens qui n'était pas prévu
Ouais.
et Brest qui arrivera en Ligue des Champions, ce serait quand même un mauvais signal pour les autres clubs qui ne travaillent pas bien. Parce qu'aujourd'hui, Brest profite du fait que la Liga est homogène. Brest profite du fait que les principales locomotives avec des budgets plus importants ne font pas leur travail. Et comme la nature a horreur du vide, et ben Brest remplit ce vide et Brest peut aller en Ligue des Champions. Donc, pour moi, Brest mériterait son championnat et Brest n'a pas à souffrir, et pour moi, c'est très important, du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire l'équipe qui ne devrait pas être là. Bon, factuellement, ils ne devraient pas être là de par leur statut. Mais par contre, par rapport au mérite sportif, ce qui m'intéresse, Brest n'a pas volé sa place. Donc, moi, j'aurais beaucoup plus envie de pointer du doigt les Marseille, les Rennes, à un degré moins, parce que c'est une situation qui est quand même particulière. L'Olympique Lyonnais, Monaco, dans une saison que moi j'appelais saison rédemption,
Ouais.
pas de Coupe d'Europe. L'année dernière, tu finis très mal le championnat et tu ne serais pas en Ligue des Champions. Bon, même si là, factuellement, ils sont en Ligue des Champions, là, ce serait beaucoup plus inquiétant.
Dernière petite question, parce que si on se projette toujours dans cet état de fait, on le sait, il y a des équipes qui ont connu des saisons de grâce comme ça, qui ont été récompensées pardon, par une qualification européenne qui a fini par les engloutir, parce que ces clubs ne sont pas bâtis pour avoir un effectif doublé, parce que ils perdent des points en championnat le week-end après avoir joué en milieu de semaine. Est-ce que c'est un risque qui pourrait guetter Brest de grandir presque trop vite, entre guillemets?
Là, je vais faire un parallèle avec ce que disait Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, quand ils ont découvert la Ligue Europa. Il parlait d'énergie mentale à trouver sur les deux compétitions parce que c'est une autre perspective qui s'impose à toi, à savoir jouer tous les 3 jours. Mais paradoxalement, ça peut servir les intérêts. Moi, je veux dire, Lens a rebondi avec la Ligue des Champions notamment, bon, même s'ils ont terminé au premier tour. Mais c'est vrai, pour répondre à ta question de manière très précise, ce serait un vrai défi parce que, évidemment, à partir du moment où tu arrives en Ligue des Champions, il risque d'y avoir une crise de croissance, notamment pour le club brestois, à savoir comment tu vas gérer les sollicitations, comment tu vas gérer l'attente autour d'un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire recevoir des adversaires prestigieux et en même temps, penser à ce qui était ton train quotidien. La Ligue 1, ce serait vraiment un défi d'ampleur pour Brest. Encore une fois, ils n'en sont pas encore là. Et si ça devait venir, sûrement que ce sera un très beau problème à gérer.
Eh bien, merci beaucoup Elton pour ce gros point Liga. Félicitations au Stade de Brest, Stade Brestois pardon pour cette saison parce que en plus d'être une équipe accrocheuse, on voit des choses qui sont simples parfois mais terriblement efficaces et ça fait du bien aussi d'avoir de la diversité dans notre beau
Bah,
championnat.
moi, personnellement, Cyril, moi, je l'appelle le Liverpool du Finistère. Donc,
Voilà, ça
chacun
c'est le bon
l'interprète comme il veut.
surnom, c'est le bon surnom. Merci beaucoup Elton, on va quitter la France et on rejoint désormais l'Angleterre. Nous voici donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume, qui a vécu un dimanche à rallonge avec cette finale de League Cup et cette victoire sur le gong de Liverpool sur un coup de tête de l'incroyable Virgil van Dijk. Incroyable parce que on a l'impression que malgré les années, il reste toujours aussi investi et impliqué dans ce projet de Liverpool.
Oui, à la limite presque encore plus. On parle souvent de monstre quand on parle de grand défenseur, mais lui c'est un colosse. C'est le colosse. J'allais faire un mauvais jeu de mots, qui est peut-être pas mauvais jeu de mots. C'est le colosse d'Anfield Road. Enfin bref, les amateurs d'antiquité apprécieront, les autres peut-être moins. Mais quand on voit ce qu'il fait hier, en plus de ça, dans le contexte d'avoir déjà eu un but refusé sur un hors-jeu, je pense que tu seras d'accord avec moi, Cyril, que j'en ai vu d'autres accepter avec
Ouais.
ce type de hors-jeu de position sur des coups de pied arrêtés, franchement. Bref. Mais bon, de marquer à la 118e minute d'un match que Chelsea a eu 4, 5, 6 occasions de remporter, de faire ça dans une équipe où il y a presque une majorité de jeunes qui sont issus de l'Académie des Reds, pourquoi? On va peut-être y revenir. Je crois que c'est un peu un symbole de ce qu'il représente pour Liverpool. Jürgen Klopp, d'ailleurs, quand il en parlait avant, je ne dirais pas qu'il avait des larmes, des trémolos dans la voix, mais pas loin, quoi. On sent qu'il y a une énorme admiration du manager pour son joueur. Quand on songe également au moment qu'il a traversé dans sa carrière, cette très grave blessure qu'il a eue, on se souvient lors du derby de la Mercy, lorsqu'il a eu cette véritable agression de Jordan Pickford, et qu'ensuite on s'est vraiment posé la question, on en
S'il
avait
allait
parlé ensemble
revenir,
d'ailleurs,
ouais.
hein, se demandant est-ce que Van Dijk, est-ce qu'on va retrouver le Van Dijk impérial qu'on avait auparavant? Ben, la réponse, oui, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, et c'est ce qu'on a encore vu dans une finale de League Cup qui était, alors, des 0-0 comme ça, on en redemande, hein, jusqu'à la 118e, hein, c'était formidable. Mais il est le trait d'union entre le Liverpool de la transition, le Liverpool de la maturité et le Liverpool de demain. Il est, si jamais il y a une note qui court à travers tout ça, un continuo, comme on dirait en musique baroque, bah, c'est Virgil van Dijk. Au moins autant que Mohamed Salah. Enfin, c'est
Mais
peut-être les
j'allais y
deux
venir,
d'ailleurs.
ouais, j'allais y venir parce que c'est vrai que avec la fin de l'ère Klopp qui s'annonce, il y a quand même de
Oui.
grandes chances que Mo Salah ne fasse plus partie de cette aventure-là. On sait les liens qu'il envoie régulièrement vers l'Arabie Saoudite. Quid de Van Dijk, en fait, qui en a parlé ouvertement il y a quelques semaines en disant qu'il fallait se poser les bonnes questions, mais son investissement aujourd'hui prouve que même si Klopp n'est plus là, il y a quelque chose qui l'unit à Liverpool qui dépasse le simple cadre avec Jürgen Klopp.
Absolument. Et je crois que les signes sont plutôt. Il a un âge avancé, entre guillemets, pour un footballeur, mais peut-être moins pour un défenseur central, pour commencer. Ensuite de quoi, on voit son énergie, on voit ses capacités d'endurance, on voit sa motivation. Il a l'énergie et la motivation d'un joueur de 21 ans qui découvre l'équipe première. Hein.
Ouais.
Et en plus de ça, l'expérience. Et je crois qu'on peut. On peut espérer, quand on est un fan des Reds, où on sait qu'on se prépare à une année, une saison 2024-25 qui va être très très particulière. Et je crois que l'une des choses qui puisse rassurer les fans des Reds, c'est que cette saison, ça sera encore avec Virgil van Dijk et peut-être d'autres derrière. Donc oui, il peut servir de trait d'union. De la même façon, il a été le catalyseur, franchement, de l'explosion de l'équipe de Klopp
Ouais.
avec Mohamed Salah. Hein.
Ouais.
Il a été le catalyseur, il y en a eu d'autres. L'arrivée d'Alisson, par exemple, ça a été également crucial. Mais quand on pense à un joueur qui a eu une valeur transformative sur un effectif,
Ouais, bien sûr.
c'est Virgil van Dijk. Et quand on le voit aujourd'hui, on comprend pourquoi Pep Guardiola, par exemple, avait essayé si fort de pouvoir le faire venir à Manchester City, échouant finalement, et Van Dijk trouvant à Liverpool un club qui correspond parfaitement à sa personnalité et un entraîneur avec lequel je crois, bon, de toute façon, c'est, je dirais pas, c'est à la vie et à la mort entre les deux. Ils ont vécu tellement de choses, des hauts et des bas ensemble, que oui, c'est le colosse d'Anfield Road.
Alors lui, il n'a pas 21 ans non plus, mais il n'en a que 23. Je voudrais qu'on parle d'un joueur qui, quand même, a une vraie empreinte sur la saison actuelle de Manchester City. C'est Phil Foden qui a marqué ce week-end. Il en est à 16 buts et 10 passes, toutes compétitions confondues. Il est quasiment
Oui.
en double-double en Première Ligue déjà. On sait qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était placé en lui par Pep Guardiola, par le club de City en général. Est-ce que cette saison, c'est celle qui l'ancre définitivement comme le joueur à même de prendre le leadership dans les années qui viennent?
Le leadership technique, oui. Le leadership sur le terrain, je ne suis pas certain, il n'a pas tout
Ouais.
à fait ce type de personnalité. C'est un garçon qui est. Je dirais pas qu'il est timide, il est assez réservé. Il a pas, il s'exprime moins facilement que certains de ses coéquipiers, qu'un John Stones, par exemple, qui, quand tu l'écoutes, tu penses à ce garçon, il a l'étoffe d'un leader, il peut porter le brassard de capitaine. Là, pour Foden, peut-être pas, mais un leader technique sans le moindre doute. Et tu parlais de ses stats, elles seront en effet 16 buts et 10 passes en, je regarde, 38 matchs. C'est assez exceptionnel. Et en fait, c'est déjà sa meilleure saison à égalité avec celle, avec 2020, 2021, dans laquelle il avait joué 50 matchs et il jouait dans un rôle complètement différent. Et c'est ça, une chose qui est extraordinaire chez Phil Foden, c'est que c'est vraiment le couteau suisse de Pep Guardiola. Alors, on sait que il fait jouer des arrières centraux en milieu de terrain. L'autre jour, on voyait John Stones quasiment arrière central en position d'avant-centre contre Bournemouth. C'était complètement extraordinaire. Mais j'ai regardé, j'ai fait un petit peu, parce que mine de rien, nous préparons cette émission. J'ai regardé un petit peu son positionnement au cours des 4 dernières saisons, les 4 dernières saisons pendant lesquelles il est devenu, oui, un des piliers de Manchester City. En 2020-2021, quand il fait donc 16 buts et 10 passes, il joue milieu gauche. Offensif, milieu gauche, se plaçant parfois en position d'intergauche, d'une position très guardiolaine. 2021-2022, c'est un petit peu moins bien, c'est seulement 14 buts contre 16, mais 11 passes. Cette saison-là, son rôle principal, c'est 19 matchs en faux neuf.
Ouais,
En
c'est
faux
vrai.
neuf. En 2021, en 2022-2023, où il marque 15 buts, 8 passes, 16 de ses titularisations, donc le plus de ses titularisations, sont au poste d'ailier gauche. 2023-2024, alors, il est ailier droit en majorité du temps, mais surtout, il est maintenant dans l'axe, très souvent. 11 fois titularisé dans l'axe, dans sa position préférée, qui est celle du numéro 10, qui n'était pas du tout le cas auparavant, parce que je regardais ses autres titularisations comme numéro 10 les saisons précédentes, et tu les additionnes, eh bien, tu arrives exactement au même total que ce qu'il a cette année. À savoir qu'il est en train maintenant de jouer dans la position que lui a toujours dit être la sienne, à savoir un milieu offensif axial, qui est aussi capable, si besoin, de reculer d'un cran.
Est-ce
Et
que
ce
ça
qui, bien
correspond
évidemment,
pas,
je pense.
pardon, je te coupe Philippe, mais ça correspond aussi tout simplement peut-être à la blessure de Kevin De Bruyne cette saison?
Ben, oui. Bien évidemment, il faut encore savoir saisir ses
Ouais, bien sûr.
opportunités. Il l'a fait et il est arrivé à un point de maturité dans son jeu qui fait que Guardiola peut maintenant le déployer à ce poste-là sans la moindre hésitation. Et il y a, je pense que d'ailleurs, cette versatilité tactique t'en dit long sur son intelligence sur le terrain, sur le fait que tu as un garçon qui est capable même, je sais pas, il se sacrifie pas, tu te sacrifies pas quand tu joues dans une équipe de Pep Guardiola. Mais il a les capacités techniques et mentales dont a besoin un joueur qui va se retrouver comme ça déployé à 4 postes différents en 4 saisons. C'est quand même hallucinant, sans rien perdre de son efficacité et de son influence sur le jeu, même en gagnant de son efficacité et de son influence sur le jeu cette année. Donc c'est assez frappant, c'est assez bluffant même. Et puis, il y a une autre chose qui n'est pas quantifiable. Et je ne sais pas si tu la ressens également, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un palier qui a été passé. À savoir qu'on savait que c'était un très, 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 très bon joueur. Il est en train de passer dans la catégorie des Jude Bellingham, hein, de joueurs de ce type-là, des Bukayo Saka, des joueurs qui, paf, ont passé ce plafond invisible qui distingue les super joueurs de club des joueurs tout simplement de classe internationale, et c'est un joueur de classe internationale, ce qui nous mène tout directement à nous projeter sur un petit tournoi qui va se jouer en juin-juillet, en se
Et
posant la
ce sera
question de
quoi sa
savoir.
place dans cette équipe des Sri Lions à Foden? Parce qu'on a beaucoup parlé du milieu de terrain Rice Bellingham. Est-ce que ce sera le maître à jouer? Est-ce que ce sera un joueur de côté? Comment on l'imagine?
Ah ben, moi, tu me dis Rice Bellingham Foden en milieu de terrain, je signe tout de suite, et je crois que n'importe quelle sélection, hormis peut-être la France, signe également tout de suite. C'est le meilleur effectif en Europe aujourd'hui, au niveau offensif. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Aucun doute. Et bon, même si ça fera hurler les amoureux de Grisou et de Kylian, mais quand on voit le volume de jeu de ce milieu de terrain, et d'un milieu de terrain, et en plus de ça, Rice, Bellingham, eux aussi ont des capacités offensives qui
Ouais, tout
sont
à fait.
étonnante. Donc la question, c'est de savoir si jamais Southgate va avoir le courage pour l'aligner de cette façon-là. Et quand même, quand tu compares l'efficacité de Foden en club avec son efficacité en sélection, c'est quand même assez frappant de voir que en sélection, il n'a que 4 buts en 31 matchs.
Ouais.
Il tombe quasiment à un but tous les deux matchs, 2 matchs et demi, on va dire, avec Manchester City. Et il tourne à un tout petit peu plus d'un but tous les 10 matchs pour l'équipe d'Angleterre. C'est quand même.
Ouais, pas le même rendement.
C'est pas vraiment le même rendement. Alors, c'est pas le même système de jeu. C'est pas la même efficacité. L'équipe d'Angleterre, même si jamais elle passe des 3-0, 4-0 en phase de groupe éliminatoire et matchs amicaux, n'est peut-être pas une équipe aussi libre dans son expression que Manchester City. Il y a un certain Harry Kane qui a tendance à marquer beaucoup des buts de son équipe. Il y a pas d'équivalent. Voici, en fait, il y a Erling Haaland. Donc même ce caveat ne tient pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Il va falloir que Southgate se décide, qu'ils doivent le faire jouer, ça ne fait absolument aucun doute. Mais dans quelle position? Là, c'est la question que il doit se poser, que nous, on va se poser à l'approche de l'Euro.
On va terminer, Philippe, par se projeter un petit peu parce que le week-end prochain, nous avons un derby de Manchester. Donc, on va parler de Manchester United puisqu'on vient de parler brièvement de Manchester City. Première défaite en 2024. Je pense que si on avait parlé de Manchester United la semaine passée, on aurait été plutôt laudatif en se disant que bah, ça allait mieux, que on
Oui.
voyait un petit peu une certaine progression. Et puis, patatras, ce week-end, cette défaite face à Fulham à domicile. Une défaite très Manchester United finalement avec un but dans les arrêts de jeu sur une phase de jeu qu'ils ont subie pendant tout le match. Ils sont désormais sixième à 3 points de Tottenham. On sait que cette semaine en plus on a eu beaucoup d'actualités autour du club. On en est où finalement de Manchester United et de ce nouveau projet incarné par le changement d'actionnariat?
Alors, le changement d'actionnariat ne se traduit pas encore par un changement au niveau de l'effectif et du manager. Il ne se traduit pas non plus encore par un changement au niveau de la direction technique du club, puisque Ashworth ne sera pas disponible avant 20 mois. Donc, en fait, on continue avec les mêmes au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit peu en contradiction avec ce que disait Radcliffe dans son point presse, où il disait que dans 3 ans, il faudrait qu'il soit des véritables challengers pour le titre, voire même qu'il l'emporte dans 3 ans. C'est
C'est
un tableau de
inenvisageable pour
marche.
toi?
Non.
Ok.
Non, tout simplement non. Je veux dire, il y a Manchester City qui est toujours là, Arsenal qui confirme, qui monte en puissance, Liverpool, même si jamais il y a un petit problème avec la succession de Klopp. Quand on regarde l'effectif et la jeunesse de cet effectif, on dit que ça va continuer encore pour un certain temps. Et puis ceux qui sont derrière, qui vont progresser encore, Aston Villa, Tottenham, quelques autres. Donc non, ils seront Newcastle, n'oublions pas également, qui va revenir. Donc ils seront certainement des candidats au top 4, ça ne fait aucun doute, mais ils l'ont déjà été, ils ont terminé en top 4, ils sont en Ligue des Champions. Mais on a du mal à voir comment ils vont pouvoir passer à ce palier différent, parce que l'un des énormes problèmes qu'ils ont, si tu veux renouveler ton effectif à Manchester United, tu vas devoir te débarrasser de joueurs auparavant. Souviens-toi de ce qui s'est passé l'été dernier quand ils essayaient de vendre Maguire, Scott McTominay. Ils n'y sont pas parvenus. Et maintenant, Maguire est redevenu titulaire et Scott McTominay
McTominay,
a fait
meilleur
beaucoup de
buteur.
bien
Ouais,
cette saison au passage.
ouais, ouais. Bah c'est toujours le meilleur buteur, ou peut-être pas plus exactement, mais il y a eu un
Non, je
moment où
crois que
c'était le meilleur
maintenant, on
buteur et
a
la télé
Højlund
aussi.
est passé devant en
Ok,
toutes compétitions
oui,
confondues.
tout à fait.
Et d'ailleurs, qui ne jouait pas contre Fulham, on n'a pas encore compris, mais ça, c'est un autre problème. Et quand on voit l'état de l'équipe, ce qu'on a vu contre Fulham, où très honnêtement, OK, ils perdent dans les arrêts de jeu, mais s'ils sont menés 3 ou 4-0 à la mi-temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment scandale, où ils se font prendre à la gorge par cette équipe de Fulham qui est quand même épatante, hein, le boulot fait Marco Silva est remarquable. Ils se font prendre à la gorge, ils n'ont absolument pas les moyens de se dépêtrer de cette toile d'araignée dans laquelle ils sont, puis une toile d'araignée qui viendrait à toi, imagine-toi, quelle horreur. Ils n'ont absolument pas les moyens de se dépêtrer, ils subissent, ils se créent deux, trois occasions, ok, mais c'est Fulham qui a fait quasiment tout le jeu dans cette rencontre. Tu ajoutes à ça le mal-être de Marcus Rashford, on parle maintenant de la vente possible de Marcus Rashford au PSG, si Kylian Mbappé venait partir pour le Real Madrid. Donc, où tu te séparerais d'un joueur emblématique qui était quand même le symbole du potentiel de Manchester United. Il y a beaucoup de signes qui sont franchement pas encourageants. Et encore une fois, au niveau de l'effectif, ça va être très compliqué à gérer. Il y a énormément de joueurs qui ont des salaires très importants dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Et il faut en plus de cela ne pas oublier que Manchester United, comme toutes les équipes de autres équipes de Premier League, doit se conformer aux réglementations du fair play financier anglais, qui est très strict, qui est devenu très strict. Everton le confirmera. Et Nottingham Forest le confirmera dans très peu. Et peut-être que Manchester City même le confirmera dans, Dieu sait, 1 an ou 2 ans. Mais il faut faire gaffe. Et donc, il va falloir Il va falloir donc dégraisser l'effectif avant de pouvoir le renouveler. Et ça, c'est un énorme challenge et je vois pas comment Manchester United peut y parvenir en 2 ou 3 fenêtres des transferts.
Dernière petite question, parce que tu parlais de Rashford qui incarnait un petit peu ça. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup moins qu'à une certaine époque, c'est Bruno Fernandes, qui est moins décisif ou moins rayonnant, dont le leadership reste encore à prouver à
Oula, oui.
Manchester United. On parle de renouvellement de l'effectif, mais est-ce que ces cadres-là, ces symboles-là, ont encore un avenir avec le nouveau Manchester United?
Alors, écoute, très bonne question. Si on regardait le 11 de Manchester United, ce qu'on appellerait le 11 type, qui va rester? Qui peut servir pour justement cette transition? Raphaël Varane, je ne pense pas. Le Raphaël Varane, il y a 4-5 ans, oui, mais pas celui d'aujourd'hui. Harry Maguire, j'en doute. Casemiro? Non. Christian Eriksen? Non. On continue comme ça dans tout le. Alors, il y a des jeunes de talent. Le petit Mainoo, il y a quand même
Garnacho,
Garnacho
Olmo, ouais.
qui a un gros potentiel, etc. Diogo Dalot, finalement, fait une belle saison. Luke Shaw sera encore là si jamais il arrive à se dépêtrer de ses pépins de santé. Mais on regarde, on se dit, mais en fait, non. Et Bruno Fernandes, c'est quelqu'un qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup des supporters des Red Devils, qui se souviennent du joueur il y a 2-3 ans, mais qui voient en ses lieux et places un joueur beaucoup moins efficace et puis surtout une attitude. Franchement, sur le terrain, un langage corporel absolument catastrophique et qui n'est pas celui d'un capitaine. Et on n'a pas l'impression, le sentiment qu'en privé, ce soit beaucoup mieux qu'en public. Hein. Donc, non, c'est vrai, c'est un très bon point, c'est qu'on ne voit pas véritablement quel est le point d'ancrage dans cette équipe. Le joueur autour duquel, comme tu as un Van Dijk, à Manchester City,
Il y en
tu as
a
Ruben
plusieurs.
Dias, John Stones, Bernardo
Ouais.
Silva, on peut continuer, on peut citer quasiment toute l'équipe. À Arsenal, tu vas dire Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Saliba, Gabriel. Tu prends toutes les équipes, tu prends même, tu vas prendre Aston Villa, tu vas dire bah absolument, je veux dire depuis Watkins jusqu'à Emilio Martinez. Tu regardes Sangoon-min à Tottenham et même Kulusevski. Et tu continues, toutes les équipes, tu vois des joueurs qui sont susceptibles d'être ce point d'ancrage, Manchester United, tu te poses la question.
Eh bien, merci pour ce point complet anglais, mon cher Philippe. Toujours un plaisir de t'entendre. On te laisse à ta cup of tea et nous, on va aller retrouver le pays du tiramisu pour parler avec Guillaume Maher-Pacini. Nous voici donc en Italie, on retrouve Guillaume Maher-Pacini qui est un petit peu patraque. Voilà, on va dire les choses, on va dire les choses à nos auditeurs. D'habitude, c'est un rayon de soleil, Guillaume. Et puis là, il a fait un peu froid sur Milan, sur Turin, tout ça. Il a eu un petit coup de froid et voilà qu'en ce lundi matin, un petit nez bouché.
Écoute, bonjour Cyril, bonjour tout le monde, c'est vrai, un petit rhume de presque printemps, Cyril. Voilà, rien de bien grave, mais c'est vrai qu'entre le soleil et la pluie, voilà, mon petit corps n'a pas résisté, mais je suis quand même là avec toi pour parler du football italien et toujours là pour Tour d'Europe, tu le sauras.
Alors, que s'est-il passé ce week-end? On va parler d'un homme principalement, ce sera Thiago Motta, c'est juste après, mais je crois savoir qu'il y a un joueur que tu avais envie de mettre en avant ce lundi matin.
Écoute, Lautaro Martinez, on a déjà parlé sur Eurosport, on avait fait un papier sur Lautaro. Il a marqué son 100e et 101e but avec l'Inter. L'Inter, Cyril, qui roule sur la Serie
Ouais, là, il n'y a
A,
plus trop de
sans
doute.
Valletti. Ouais, c'est vraiment un scudetto qui leur tend les bras. Il n'y a plus grand-chose qui peut leur arriver. Mais c'est vrai que Lautaro, voilà, il fait une saison incroyable. 22e but en 23 matchs, meilleur buteur de la Serie A. On est sur un joueur de très très haut niveau. Pour moi, il est dans le top 5 des attaquants mondiaux à l'heure actuelle. Alors, on est vraiment sur un joueur top mondial qui comme son club, voilà, marche sur le classement des buteurs. Et l'Inter marche sur la Serie A et s'envole vers le Scudetto, porté par un énorme et un gigantesque Lautaro Martinez.
Alors, on ne parlera pas de titre ici, mais d'une équipe révélation. C'est le Bologne de Thiago Motta, solidement ancré à la 4e place de ce classement de Serie A. On a déjà parlé de lui, on a déjà parlé de sa cote qui ne cessait de grandir, mais là, on a l'impression que c'est encore un peu plus vrai qu'avant et que s'il y a un entraîneur qui va susciter les convoitises l'été prochain, c'est évidemment lui.
Écoute, Bologne fait une saison historique. Jamais dans son histoire, le club avait atteint ce nombre de points-là à ce nombre de journées. C'est un club aujourd'hui qui est en course pour la Ligue des Champions, non seulement pour l'Europe, mais ils sont quatrième à l'heure actuelle. On va voir ce que l'Atalanta a fait contre l'Inter dans le match en retard mercredi. Mais Bologne, en tout cas, en course Pour la Ligue des Champions, tu sais que l'Italie pourrait avoir un cinquième club qualifié parce que l'Italie est actuellement première du ranking UEFA, du classement UEFA de la saison. Et on sait que les deux premiers obtiendront une place supplémentaire en C1. Et ce qui ferait que la Serie A aurait cinq clubs. Et Bologne étant quatrième, étant sur une série incroyable. Et surtout, Cyril, au-delà du niveau comptable qui est impressionnant, on est vraiment sur l'une des équipes qui joue le mieux en Serie A. C'est un football offensif, c'est un football proactif. Tous les joueurs sont hybrides et tous les joueurs, surtout tu l'as dit, soulignent l'énorme travail de Thiago Motta. Il avait déjà fait plutôt un bon travail à Spezia, mais c'était un petit club, il était un peu embourbé avec les problèmes des dirigeants. Et depuis qu'il est arrivé à Bologne, on sent qu'il monte crescendo.
Ouais.
Et si on devait un peu le comparer aujourd'hui, Cyril, à des entraîneurs en Europe, c'est vrai que quand je vois un peu Xabi Alonso, l'engouement qu'il suscite en Allemagne, c'est vrai qu'en Italie, le Bologne de Thiago Motta, voilà, c'est un peu pareil. Alors, c'est évident que Bologne n'est pas premier, mais si on recontextualise quand même la saison historique qu'est en train de faire Bologne, c'est notamment grâce à Motta. On pourrait parler aussi de Sartori, directeur sportif, de plein de composantes. Mais c'est vrai qu'on va dire que le chef d'orchestre de tout ça, c'est Thiago Motta.
On a parlé de son avenir. Tu nous disais notamment que si Bologne venait à aller en Ligue des Champions, il pourrait être possible que Thiago Motta reste aux commandes. Il n'empêche, quand on voit la liste des clubs qui s'intéressent à lui, on peut citer la Juventus, dont on ne sait toujours pas si Allegri sera l'entraîneur l'an prochain. Il y a le Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique semble parti pour durer. On sait que Nasser El-Khelaifi est un fervent admirateur de Thiago Motta depuis de très nombreuses années. Il y a l'AC Milan, et on va en parler sans doute plus en détail parce que Pioli n'est pas assuré de rester non plus et parce qu'il y a des liens qui font que. Et puis il y a même le Napoli qui pourrait rechercher un entraîneur après cette saison chaotique. Donc est-ce que. Quand on voit les candidats prestigieux, faut quand même s'attendre à voir Thiago Motta rester à Bologne ou là, ce sera l'heure du départ cet été.
Écoute, si Bologne se qualifie en C1, je pense que la question se posera parce que l'aventure est tellement belle que lui pourrait être tenté même de rester à Bologne. Après, son contrat expire en juin prochain, donc ça c'est une
Ouais.
première composante. On sait qu'il y a des discussions pour prolonger. Pour l'instant, c'est pas acté, loin de là. En tout cas, Bologne fait tout pour le convaincre de rester, ça c'est évident. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de grosses écuries en Italie qui sont intéressées. On sait que Naples avait tenté le coup l'été dernier, De Laurentiis a passé plusieurs heures avec Motta en vain, et c'est l'entraîneur, c'est Motta qui avait refusé de rejoindre Naples. Donc ça, c'est quand même déjà une première info. À Milan, Cyril, il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui aura son mot à dire dans le choix du prochain entraîneur, parce que probablement le cycle Pioli arrive à sa fin. Et c'est vrai que Motta, c'est vraiment un nom à Milan qui est vraiment suivi de très près. Il est dans la shortlist, il est très haut dans la shortlist.
Si on devait
Là,
citer un club favori, ce serait le Milan AC aujourd'hui,
moi, je pense
l'AC
que ce serait
Milan.
Milan. Ouais, je pense que ce serait Milan qui serait favori. La Juve, attention à Allegri. Alors, hier dimanche, c'est vrai que Giuntoli, le directeur sportif, a dit, nous, on aimerait bien le prolonger. Mais bon, on sent quand même que voilà, c'est quand même plus l'amour fou avec les supporters depuis pas mal de temps. Le voir rester, ce serait compliqué. Mais en tout cas, Motta, il a vraiment une cote aujourd'hui. Alors, je vais pas te dire c'est la plus grande en Italie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs. Mais c'est vrai que Motta, aujourd'hui, c'est vraiment l'entraîneur. Alors moi j'avais fait un papier où je disais que la cote était grimpante, mais là aujourd'hui c'est un entraîneur confirmé. C'est un entraîneur que tout le monde veut s'arracher. Et le PSG aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'ouvrir un
Bien
cycle
sûr, avec Luis
avec
Enrique.
Luis Enrique.
Ouais.
Et honnêtement, je vois mal Enrique partir sauf cataclysme d'ici à la fin de la saison. Donc voilà, je sais que Motta, et ça c'est notoire en Italie, il rêve du PSG. Ça c'est évident. Avec Nasser, voilà, tu l'as dit, il y a un lien qui est quasiment même paternel hein, entre les deux. Nasser est fan de Thiago Motta déjà en tant que joueur. Mais voilà, j'ai l'impression que le timing avec le PSG n'est pas vraiment le bon. Donc je pense qu'en Italie, tu l'as dit, bah, les clubs les plus intéressés, ce serait Milan, Naples et la Juve. Et je mettrais quand même plus une pièce sur Milan parce que ça colle beaucoup au projet, même un peu au projet des jeunes, au projet un peu moderne. Et c'est vrai que Motta, aujourd'hui, il propose un football en Italie. Bah, qu'on voit en Europe, mais voilà, c'est un football vraiment moderne et voilà qui suscite l'enthousiasme, mais surtout Il fait progresser ses joueurs. Et ça, c'est notoire quand on a un entraîneur en 2024.
Il est prêt pour un aussi gros club que les écuries qu'on vient de citer, parce que être un très bon entraîneur, c'est une chose, être un très bon manager, c'est une chose, mais il y a aussi forcément de la politique qui rentre en jeu dans ces clubs-là. Il est prêt à supporter l'environnement à Milanello, la pression de Laurentiis au Napoli, voire les crises quasi quotidiennes du Paris Saint-Germain?
Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et ça reste quand même une part d'inconnu parce
Ok.
que tu as entraîné Spezia, entraîné Bologne. Voilà, c'est sûr que le voir dans ce serait sa première vraie expérience dans un grand club. Donc, c'est sûr que la pression des résultats, c'est autre chose qu'à Bologne, même si, quand même, en Italie, Cyril, Bologne reste un club, on va dire, important. Alors, évidemment, avec des objectifs qui sont moindres par rapport au club qu'on a cité auparavant, mais c'est sûr qu'il y a une part d'inconnu. Après, Thiago Motta, on le sait, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a été dans des vestiaires. Alors, en tant que joueur, tu vois, regarde Xabi Alonso à Leverkusen. Alors, c'est un club aussi important, mais personne ne te dit que s'il signe au Bayern ou s'il va à Liverpool ou au Real, est-ce qu'il arrivera à gérer aussi ce genre de vestiaire? Ça reste, quand tu prends un entraîneur qui monte, ça reste forcément une part d'inconnu, mais je pense que Thiago Motta a les épaules pour le faire. À Bologne, il y a des joueurs qui sont aussi importants, alors pas du niveau de Leao, des Vlahovic, des Osimhen, ça c'est évident. Mais en tout cas, je pense qu'il a les épaules, il a la personnalité pour le faire. On l'a vu gérer quand même avec une poigne assez forte certains joueurs à Bologne, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à trancher dans le vif quand il le faut. Il n'hésite pas à écarter des joueurs quand il le faut, il prend des sanctions quand il le faut. Donc, c'est un entraîneur avec un jeu très agréable à voir, mais aussi c'est un entraîneur avec une poigne. Donc, c'est pas un entraîneur qui sait se marcher dessus. Et voilà, vous l'avez connu au PSG en France, c'est un entraîneur avec une forte personnalité. Donc, je pense qu'il a les épaules pour le faire. Mais c'est certain que ce serait sa première vraie expérience en tant que, voilà, entraîneur dans un très grand club. Et je pense
Avec les
aussi que
doutes qui vont avec, ouais.
PSG, pour le PSG, je pense que ce serait intéressant de le voir dans un club, on va dire en Italie, un grand club, pour peut-être, je fais une bêtise, en 2-3 ans, quand le cycle, évidemment, voilà, Luis Enrique sera peut-être terminé, pourquoi pas aller chercher Motta, qui aura déjà du coup un bagage avec un grand club. Mais en tout cas, en Italie, Thiago Motta aujourd'hui, c'est l'un des entraîneurs avec la cote la plus élevée, et à juste titre, parce que ce qu'il réalise à Bologne cette année, c'est historique, c'était pas du tout prévisible, et voilà, c'est vraiment lui l'artificier de tout ça à Bologne.
On est dans le futur dans Tour d'Europe, puisqu'on vous annonce donc l'arrivée de Thiago Motta en 2028 au Paris Saint-Germain. C'est une info exclusive, c'est ça, Guillaume?
Exactement, exactement. J'ai pas dit 2028, j'ai dit les prochaines années. Je me mouille pas trop pour rester un minimum crédible. Déjà qu'il me reste pas beaucoup de crédibilité, Cyril, si je pouvais garder un tout petit peu, ça serait bien.
Bon, merci beaucoup, Guillaume, pour ce
J'essaie.
point italien. Nous, on va quitter l'Italie et on va s'envoler pour l'Allemagne. Nous voici donc en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, qui a vécu un week-end, je dirais, plein de suspense à l'image de cette victoire du Bayern dans le temps additionnel face à Leipzig sur un but d'Harry Kane, un but qui pourrait compter, David.
Oui, c'est peut-être l'image du week-end sur le plan sportif. Cyril, salut à tous. Harry Kane qui avait marqué un premier but. Le Bayern disputait un match difficile contre Leipzig. On avait appris quelques jours plus tôt que Thomas Tuchel s'en irait à la fin de la saison. Donc, il y avait quand même plein d'incertitudes sur la réaction de l'équipe par rapport à ce mini tremblement de terre en Bavière. Et Harry Kane a répondu présent. C'est lui qui tire l'équipe cette saison. 25, 26, 27 buts. On ne sait pas où il va s'arrêter. Le record est possible en fin de saison pour lui. Et il a sauvé le Bayern d'un match nul qui aurait encore permis aux critiques de se déchaîner. Harry Kane servi par Choupo-Moting dans la 91e ou 92e minute de la rencontre. Ça donne un peu d'air au Bayern, ça donne un peu de crédibilité à Thomas Tuchel, qui avait par exemple déplacé Kimmich, latéral droit. Et ben voilà, le Bayern garde son petit espoir, 8 points derrière Leverkusen, de réussir un miracle, entre guillemets, en fin de saison et d'enchaîner avec un 12e titre consécutif.
Tiens, d'ailleurs, sur Thomas Tuchel, parce que la semaine dernière, on avait parlé du Bayern, de la crise, et dans l'après-midi, quasiment, on avait la décision du Bayern. Pourquoi faire ça maintenant? Est-ce que c'est une volonté de mettre la pression sur les joueurs et dire, sachez que dans 6 mois, il sera plus là et donnez tout, on verra après? Est-ce qu'il y a une volonté, peut-être, est-ce que ce qu'on a lu, de déjà blinder un petit peu Xabi Alonso? Comment on voit les choses?
Oui, alors la première chose, c'est qu'il y a une tradition bavaroise qui n'est pas forcément très positive. C'est souvent le cas dans les très grands clubs comme le Real, le Barça et quelques autres, bien sûr. C'est que quand vous enchaînez les mauvais résultats, il n'y a pas d'alternative. L'entraîneur est mis en cause durement et on doit trouver une solution de sortie. Avec le Bayern, ce sera dans quelques mois, sauf si les défaites continuent à s'enchaîner, mais on a eu ce week-end une première réponse. Et c'est le président Dresden qui a invité Thomas Tuchel à un déjeuner et on s'est mis d'accord très vite. On s'est mis d'accord très vite pour cesser la collaboration. Je pense que les dirigeants du Bayern voulaient trouver une solution. Et je pense aussi que Thomas Tuchel s'est senti soulagé parce qu'il était très frustré. Ça ne fonctionnait pas dans la communication avec certains cadres. Et ça va lui permettre maintenant d'avoir les coudées franches, de pouvoir prendre des décisions en disant à ses joueurs, quel que soit votre destin en fin de saison, moi je m'en vais. Donc voilà, on va faire feu de tout bois. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end. Le risque, évidemment, c'est qu'il y ait une déconnexion totale et que Tuchel n'ait plus de prise du tout sur son équipe. Mais pour l'instant, la première réponse, le premier indice, c'est que sportivement, il y a eu quand même un léger rebond. Et voilà, c'est surtout une tradition bavaroise de dire, allez, on a enchaîné trois défaites, on réagit, c'est l'entraîneur qui évidemment en fait les frais.
Alors, mon cher David, on vient te voir pour parler un petit peu football populaire et un petit peu culture parce que on a vu ces derniers mois une fronde de la part des supporters allemands contre CVC qui négociait un deal avec la Ligue allemande. Le deal, grosso modo, c'était d'échanger 8% des droits TV contre 1 milliard d'euros disponibles immédiatement pour les clubs. C'est ce qui s'est passé en France, notamment. Finalement, face à la résistance des supporters allemands qui ont usé de toutes sortes de stratagèmes en interrompant les matchs avec des balles de tennis, avec des pièces en chocolat notamment, le deal est tombé à l'eau et les supporters allemands et les ultras, a fortiori, ont gagné leur combat. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venu ce mouvement?
Ouais, alors vrai débat de société. En
Ouais,
Allemagne,
ok.
la grande presse généraliste s'en est emparée. Le Spiegel de la fin de semaine, qui est l'hebdomadaire de référence pour la société en Allemagne, s'en est emparée avec un traitement très ironique de la chose. On peut y revenir ultérieurement. Mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a cette tradition des supporters allemands de vouloir absolument, symboliquement ou réellement, en fait, à la limite, c'est pas tellement le plus important, vouloir absolument garder une partie démocratique, une partie anti-commerce dans le football, y compris dans les deux divisions d'élite, la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. Les supporters tiennent absolument à préserver leur modèle, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une part de décision, un pouvoir de décision dans les choix des clubs, dans les choix de leur club. Il y a des exceptions qu'on peut balayer assez vite. RB Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim. Il y a des exceptions plus ou moins acceptées, mais le modèle global, c'est que les supporters veulent garder ce côté démocratique dans le football via cette fameuse règle 50 plus 1, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un investisseur, quel qu'il soit, de posséder plus de la moitié des parts dans le club. Les supporters gardent donc un droit de décision lorsqu'il y a une décision importante à prendre dans le club. Et ça, c'est l'un des volets. Mais l'autre volet, c'était effectivement, tu l'as bien expliqué, Cyril, que la Ligue laisse entrer un investisseur aussi pour gonfler les revenus, pour que les droits télé aussi soient répartis différemment. Et les supporters ne veulent absolument pas entendre parler de cela. Ce qui est frappant en Allemagne, Cyril, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les leaders d'opinion, entre les élites pensantes et le populaire. On a l'impression qu'il y a un vrai décalage. Les éditoriaux dans la presse disent, ça serait bien quand même de suivre le rythme des grandes ligues européennes parce que sinon on va perdre notre compétitivité sportive. Mais les supporters ne veulent pas entendre parler de ça. J'étais en voyage à Cottbus ce week-end aussi et j'ai bien vu que les supporters de ce club qui est en perdition sur le plan sportif ne veulent pas entendre parler d'un investisseur, d'un apport d'argent. Et c'est symboliquement une belle explication aussi. Je crois que cette tradition-là, elle n'est pas près de lâcher. Il y a eu des banderoles très très sévères dans les tribunes de tous les stades. Il y a eu des interruptions de matchs de 15, 20, 30 minutes, Cyril. C'est une petite victoire quand même populaire. Il faut pas se voiler la face sur le plan financier, sur le plan sportif. Ça peut avoir un impact négatif sur la Bundesliga en comparaison de la Première Ligue, en comparaison de la Liga, en comparaison peut-être aussi de la Ligue 1 à moyen terme. Mais pour l'instant, les supporters sont fiers d'avoir d'avoir empêché la Ligue de faire ce deal, puisque la Ligue a décidé dernièrement d'interrompre ce mécanisme.
Tu parlais du Spiegel qui avait un ton très ironique.
Ouais.
Comment ça a investi la sphère sociétale allemande? Est-ce que les gens ont été naturellement du côté des ultras et de leurs revendications? Ou le rationalisme économique faisait pencher un petit peu la balance? Comment se positionnait l'opinion publique, j'ai envie de dire, sur ce sujet?
Mais encore une fois, il y a ce vrai décalage, ce vrai palier entre les gens de pouvoir, les gens d'influence, les gens qui sont un petit peu dans l'économie aussi du sport professionnel et qui poussent pour au moins pas à pas avoir un modèle qui soit compétitif avec les très grandes ligues européennes et mondiales parce que on a peur d'être déclassé. Mais à côté de ça, vous avez le peuple, même si ça peut paraître un peu péjoratif quand on utilise ce terme, mais le mouvement populaire qui dit, mais nous, on a une jurisprudence, on a un exemple avec le RB Leipzig, avec Red Bull, qui a dé-démocratisé notre système et on n'en veut absolument pas. On veut pas d'un conseil de surveillance d'un club, d'un conseil d'administration d'un club qui décide de tout, des transferts, de la politique du club, de la politique vis-à-vis des supporters. Et ça a beaucoup refroidi sur les 10 dernières années les Allemands qui veulent pas entendre parler d'un élargissement de ce cas RB
De
Leipzig.
ce
Mais je
modèle,
crois que ça a fait un effet hérisson un peu, Cyril, cette affaire-là, de telle sorte que les supporters sont prêts à accepter, ça peut paraître un peu absurde, sont prêts à accepter de perdre un peu en compétitivité vis-à-vis de Manchester City, vis-à-vis du Real Madrid et vis-à-vis de tous les autres,
S'ils
quitte
gardent en
à...
identité, quoi.
Voilà, exactement. Alors ça va être évidemment une question qui va revenir dans les prochains mois et dans les prochaines saisons sur le tapis. On verra si ça évolue, mais pour l'instant, on en est là. Il y a vraiment cette barricade, cette barrière. On veut garder ce côté démocratique, même si, il faut bien le dire, dans les deux divisions professionnelles, il est un peu artificiel aussi.
Dernière petite question sur le sujet, parce que ça nous renvoie à ce qui se passe en France, ce deal avec CVC qui a été signé, non pas en catimini, mais disons qu'on n'a pas compris peut-être instantanément les conséquences de cet accord-là. Est-ce que ça a été discuté aussi en Allemagne, ce qui s'est passé en France, et le fait que finalement la Ligue avait vendu une partie de son pactole à un fonds d'investissement?
Oui, on l'évoque, c'est ce que je disais par rapport au classement actuel. La Bundesliga, elle est considérée comme la deuxième ligue sur sa santé financière derrière la première ligue aujourd'hui en Europe. Et forcément, on a regardé ce qui se passait ce qui se passe en Ligue 1, on a regardé ce qui se passait en Ligue 1 pour la France. Oui, c'est expliqué, c'est discuté. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette fracture encore une fois, ces leaders d'opinion qui disent il faut prendre le train en marche. Il faut suivre pour qu'il n'y ait pas seulement le Bayern qui puisse rivaliser et que tous les autres soient complètement déclassés, Dortmund y compris. Et encore une fois, ce mouvement populaire qui dit, mais nous, on veut surtout pas changer de modèle et on veut rester dans notre fonctionnement très régional, très fédéral, auquel tiennent beaucoup les supporters. Oui, c'est observé absolument. Et pour l'instant, je le répète, on veut surtout pas s'engager dans cette voie-là, dans ce qui concerne les supporters allemands. En tout cas, la fronde a été relativement violente quand même, pacifiste mais assez violente. Et Hans-Joachim Watzke, qui est l'un des grands décideurs, le patron de Dortmund de la Ligue de football en Allemagne, a fini par se dire, bon, on arrête et on repousse ça plus tard.
Et ben voilà pour cette victoire des supporters. Ça n'arrive pas si souvent que ça ces dernières années, donc c'était important de le souligner dans Tour d'Europe. Merci beaucoup, David. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes plateformes d'écoute et sur eurosport.fr pour voir les meilleurs extraits en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.